15h à Paris et à Kinshasa, 14h en temps universel. Clotilde Dumay sur le journal, sur RFI, c'est le journal. Bonjour Clotilde.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Dans ce nouveau journal, l'inquiétude des organisations humanitaires face à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des combats étaient en cours ce matin, tandis que des rassemblements se sont formés à Kinshasa, où plusieurs ambassades ont été visées. Le président serbe va-t-il tenir? Pour l'instant, c'est le Premier ministre qui a annoncé sa démission. Conséquence de presque 3 mois de manifestations contre le pouvoir accusé de corruption. Et puis c'est le Las Vegas régionale, la Biélorussie et ses casinos qui attirent de nombreux voisins russes prêts à profiter des jeux d'argent bien plus encadrés dans leur propre pays. Reportage dans ce journal. Des ambassades visées donc à Kinshasa par des manifestants, notamment les ambassades rwandaises, américaines, belges, françaises. Des pillages et des dégradations ont été signalés dans plusieurs d'entre elles. Inadmissible, réagit le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Des magasins, des restaurants ont également été pris pour cible. Les manifestants font part de leur colère après les derniers événements dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des échanges de tirs ont été entendus ce matin à Goma, dans la zone de l'aéroport. Des affrontements entre l'armée congolaise et les combattants du M23 soutenus par les soldats rwandais. Le programme alimentaire mondial se dit préoccupé par une éventuelle pénurie de nourriture dans la capitale du Nord Kivu. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint des Nations Unies en RDC, coordonnateur des opérations humanitaires.
Il y a encore beaucoup de tirs, y compris à l'arme lourde, beaucoup de personnes tuées. Les services de base à Goma sont toujours très gravement perturbés, l'eau, l'électricité. Les hôpitaux sont débordés, donc ils n'arrivent plus à gérer l'afflux des blessés. Simplement hier, dans l'hôpital principal, pour gérer les cas graves, il y a eu 256 blessés, des blessés par balle, des blessés par éclat d'obus, donc beaucoup de blessés graves. Ce matin, donc, on nous a rapporté beaucoup de pillages des agences humanitaires des Nations Unies, pillages de nourriture, de vivres d'urgence et de stocks de médicaments. Nous demandons l'ouverture de corridors humanitaires, la réouverture de l'aéroport, le passage des frontières pour les gens qui doivent bouger à cause du niveau de danger. Il faut vraiment la fin des hostilités.
Et on attend une prise de parole du président congolais Félix Tshisekedi. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se réunit aujourd'hui, tout comme le Conseil de sécurité des Nations unies. C'est une première victoire pour les manifestants qui sont mobilisés depuis presque 3 mois en Serbie. Le Premier ministre a annoncé sa démission. Miloš Vučević, qui a fini par céder à la pression des contestataires qui se mobilisent depuis la mort début novembre de 15 personnes dans l'effondrement d'un auvent de la gare de Novi Sad. Ils attribuaient cette catastrophe à la corruption et à l'incompétence du pouvoir en place. Les manifestations antigouvernementales sont presque quotidiennes et l'important rassemblement des étudiants hier et cette nuit à Belgrade a donc définitivement fait basculer, Laurent Rouy, le gouvernement serbe.
Le premier ministre serbe Miloš Vučević et le maire de Novi Sad Milan Djuric ont démissionné ce matin de leurs fonctions. Raison avancée, des violences commises par les militants du parti au pouvoir à Novi Sad la nuit dernière contre des étudiants contestataires. Une étudiante rouée de coups et à la mâchoire décrochée a été admise aux urgences. Depuis le début des protestations, les divers incidents violents semblent toujours avoir été le fait de sympathisants du pouvoir, alors que les étudiants sont au contraire restés strictement non violents. Alors que la contestation populaire contre la corruption et contre le système semi-autoritaire du président Vučić ne diminue pas, le pouvoir qui avait lancé hier un appel à négocier resté sans effet semble de plus en plus faible. Pourtant, des députés d'opposition ont été empêchés physiquement d'entrer dans le Parlement ce matin et un vote de défiance envers le Parlement a été reporté. Le pouvoir reste donc aux mains du parti du président Vučić et de nouvelles manifestations sont prévues dans les jours à venir. Belgrade, Laurent Rouy, RFI.
Tout déplacement forcé de population à Gaza serait inacceptable, prévient le Quai d'Orsay. Le Qatar, lui, réitère son soutien à une solution à 2 États. Réaction alors que Donald Trump a redit sa volonté de déplacer les habitants de la bande de Gaza. Le président américain souhaite en discuter prochainement avec le premier ministre israélien. Donald Trump, qui veut aussi s'inspirer du dôme de fer de l'État hébreu, il a signé un décret pour construire un bouclier antimissile aux États-Unis. Alors l'objectif est-il de relancer la compétition technologique avec les concurrents des Américains? Élément de réponse avec Franck Alexandre.
Certaines démonstrations de force toutes venues de Moscou ont généré une véritable inquiétude au Pentagone. Il y a eu la multiplication de tirs de missiles hypersoniques de type Zircon, puis le tir dans l'espace d'un missile anti-satellite en 2021, et récemment le tir sur le territoire ukrainien d'un missile balistique intermédiaire, l'Oreshnik. La Russie indique ainsi à l'Occident qu'en matière de missiles, elle a conservé un savoir-faire inégalé. Les États-Unis préparent donc leur réponse, et ce sera un bouclier anti-missile destiné à relancer une nouvelle guerre des étoiles, estime le général de l'armée de l'air, Bruno Mignot.
Le dôme de fer de M. Trump, c'est empêcher l'efficacité des missiles intercontinentaux russes contre le territoire américain et de décrédibiliser l'arsenal nucléaire russe. Pour moi, le dôme de fer ressemble quand même étonnamment et peu ou prou à l'initiative de défense stratégique du président Reagan des débuts des années 80. Et c'est quand même, à mon sens, cette guerre des étoiles qui a permis aux États-Unis en particulier de gagner la guerre froide contre l'URSS.
Selon les experts, un seul tir de missile Oreshnik coûte à Moscou 100 millions de dollars avec son dôme de fer. Washington parie sur le fait que la Russie sera bientôt à court d'argent pour poursuivre la compétition.
Franck Alexandre, Donald Trump qui n'aura pas le Groenland, assure le ministre danois des Affaires étrangères. La première ministre danoise, elle a entamé une tournée dans plusieurs pays européens pour obtenir leur soutien face à la volonté du président américain de s'emparer du Groenland. Après Berlin, Mette Frederiksen est arrivée à Paris avant Bruxelles cet après-midi. Deux hauts responsables russes, eux, sont arrivés à Damas. C'est une première depuis le départ de Bachar al-Assad, alors que Moscou espère conserver ses deux importants de bases militaires en Syrie. Les Russes, qui sont par ailleurs nombreux à franchir la frontière jusqu'en Biélorussie pour pouvoir jouer au casino, à Minsk et dans les villes frontières, les jeux d'argent et les clubs de poker se sont installés partout. La législation biélorusse est très libérale dans ce domaine, contrairement à celle de Moscou. Reportage d'Anissa El-Jabri.
Les enseignes clignotent en rose, blanc, jaune, même en pleine journée. Les casinos sont parfois dans l'enceinte des grands hôtels, parfois dans des bâtiments dédiés sur plusieurs étages, parfois dans des salles minuscules.
Ici, il y a des casinos jusque dans les petites cours intérieures.
23 ans et déjà une carrière dans le milieu du jeu, ce jeune homme croisé à Minsk connaît la clientèle, essentiellement russe, sur le bout des doigts.
Ils viennent très rarement seuls, le plus souvent avec un groupe d'amis. Ils peuvent dépenser 3000 dollars en moyenne, ceux qui viennent régulièrement sont évidemment les plus riches. Ils peuvent placer 1000 dollars sur un pari, dépenser 7 à 8000 dollars en une journée et 20 à 30 000 pour leurs vacances. Le plus souvent, ce sont les habitués qui font ça.
Une vraie industrie et un gros employeur dans la capitale. Chaque établissement compte en moyenne une centaine de salariés, certains d'entre eux avec des offres plus pointues.
Ici, nous sommes devant un établissement hautement spécialisé dédié au poker, avec des tournois et beaucoup d'argent liquide. Moi, comme croupier, je suis allé partout en Biélorussie. Je vais en Russie aussi, pour des tournois jusqu'à 11 jours d'affilée.
Même les petites villes biélorusses à la frontière de la Russie ont souvent aussi leurs jeux d'argent, une vingtaine de machines à sous, suffisant pour attirer des clients. Anissa El-Jabri, Minsk, RFI.
L'épidémie de grippe, toujours très active en France, alors que plusieurs hôpitaux sont sous tension. 8 personnes sur 10 hospitalisées en réanimation ne sont pas vaccinées. En particulier, les personnes de plus de 65 ans, qui sont pourtant particulièrement vulnérables. En métropole, 65% des seniors sont vaccinés. C'est presque deux fois moins dans les Outre-mer, d'après une enquête de Santé publique France, qui pointe aussi d'autres inégalités. Sophie Vaux est pharmacienne épidémiologiste en charge de la surveillance des couvertures vaccinales à Santé publique France.
Ce que l'on a observé, c'est qu'en France, si les personnes les plus âgées étaient relativement bien vaccinées, en revanche, les jeunes seniors qui ont un peu plus de 65 ans avaient moins tendance à se faire vacciner ou à oublier la vaccination contre la grippe. Donc le premier message à transmettre, c'est vraiment que la vaccination contre la grippe est importante également pour ces jeunes seniors. Un deuxième résultat assez significatif, c'est qu'il y a un impact des revenus et du niveau d'études sur le niveau de vaccination contre la grippe. Les personnes les mieux vaccinées sont également celles qui ont fait le plus d'études ou qui ont les revenus les plus élevés. C'est ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé. Il ne doit pas normalement y avoir de frein économique à la vaccination contre la grippe parce que en France, le vaccin est gratuit et en plus, bien évidemment, on peut se faire vacciner par son médecin, son infirmière, mais il est également désormais possible de se faire vacciner dans les pharmacies de ville. Donc l'accès à la vaccination a été très facilité. Faut vraiment rappeler la gravité de la grippe, qui en France peut conduire jusqu'à 9 000, 10 000 décès par an.
Un propos recueilli par Valérie Cohen. Et puis en sport, les quarts de finale du mondial de handball à Zagreb. La Croatie qui va affronter à domicile la Hongrie dans un peu moins de 3 heures. Et puis ce soir, la France jouera contre l'Égypte. Pour le moment, il est 15h10 à Paris, à suivre sur RFI.